Trinité est une doctrine un peu à part. Et elle est une des doctrines typiquement chrétiennes. Nous avons un certain nombre de doctrines en commun avec les autres monothéismes. L'affirmation que Dieu est un. Nous avons un certain nombre de choses en commun avec le judaïsme, notamment. Mais sur la question de la Trinité, nous quittons le judaïsme, nous quittons l'islam. Il y a rupture. Personne n'est prêt à nous suivre dans cette histoire-là. C'est une affirmation donc proprement chrétienne et plutôt importante. Le pape Léon XIII, dans une encyclique de 1897, a dit que le mystère de la Sainte Trinité est la substance du Nouveau Testament. Et le catéchisme de l'Église catholique, et il faut peut-être que je dise tout de suite une chose, sur la question de la Trinité, nous sommes totalement en phase avec les catholiques. Le catéchisme de l'Église catholique dit que la Trinité se trouve au centre de l'Évangile, qu'elle en est la réalité essentielle, elle constitue l'objet même de la foi, de l'espérance et de la charité. Donc, a priori, ça semble être quelque chose d'important, d'essentiel. Et en même temps, c'est une doctrine qui a un petit air, je dirais, très abstrait, très décalé. Et là, ceci de particulier, qu'elle est totalement à l'extérieur de notre expérience. C'est-à-dire, bien des doctrines sont, je dirais, à la portée de la pensée, d'une certaine manière. Mais avec la Trinité, nous plongeons dans l'intérieur de Dieu lui-même. Et de ce fait-là, nous dépendons totalement, totalement de la révélation. Il n'y a rien qui se prête à notre expérience immédiate qui nous permettrait de trancher des questions relatives à la Trinité. C'est quelque chose qui est hors de nous et hors de notre atteinte, d'une certaine manière. Et Pascal a pu dire, seul Dieu parle bien de Dieu. Vous savez, quand les hommes, de par leur spéculation, imaginent Dieu, souvent ils s'égarent. C'est dû au fait que notre intelligence, tout comme nos émotions, tout comme le reste de nos personnes, sont atteints par la chute. Quand l'homme a chuté, quelque chose s'est brisé et nous ne sommes pas entiers. Et tout notre être est atteint de ça, y compris notre intelligence. Et donc, quand notre intelligence se met d'elle-même à imaginer Dieu, elle se fourvoie. Et nous avons donc totalement besoin de la révélation de Dieu dans les Écritures pour comprendre quelque chose sur Dieu. C'est le seul moyen qu'on a de bien comprendre Dieu. C'est quand il parle de lui-même. Parce que lui seul se connaît. Et donc, il va falloir que tout ce que nous pouvons dire sur Dieu se passe sur les Écritures et soit constamment, je dirais, soumis au jugement de l'Écriture. Et en même temps, nous avons toujours cette tentation de nous ériger en juge de l'Écriture. Et cette tentation-là, il faut la combattre parce que elle pollue en quelque sorte ce que nous pouvons savoir de Dieu. Si nous commençons à nous projeter dans la divinité, c'est mal parti. D'ailleurs, que la critique de la religion, que Feuerbach et les autres, ils ont justement ça reproché aux hommes de foi, de se projeter, de s'imaginer un Dieu qui n'est que finalement que la projection de nos envies. Par exemple, nous sentons seuls sur cette planète, nous avons envie d'avoir un père, et donc on se projette ce père. C'est ça la critique de la religion. Or, d'une certaine manière, ces gens-là ont raison parce que l'Écriture elle-même critique cela. Quand elle critique l'idolâtrie, elle va avoir ce même discours. Ça, c'est des projections. Mais nous voulons être à l'écoute de Dieu, ce qu'il dit sur lui-même. Et là est toute la difficulté quand nous parlons de ces choses-là qui sont cachées, profondes et néanmoins très importantes. Alors, quelques-uns d'entre vous ont réfléchi sur la question de la Trinité. Elisabeth m'a transmis un certain nombre de questions. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est que je vous donne quelques éléments pour comprendre de quoi on parle. Je pense que vous tous, vous connaissez tant soit peu l'Écriture. Donc, vous avez sans doute déjà fréquenté des choses qui touchent de loin ou de près à cette doctrine-là. Si vous avez des questions, on peut essayer d'en parler. Je ne peux pas répondre à toutes les questions. Je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai quelques réponses à vous offrir, peut-être. Donc, j'aimerais bien que ce soit relativement décontracté. Mon but pour ce soir, c'est que vous rameniez quelque chose pour vous, pas que je fasse une présentation qui me fasse plaisir, moi. Peut-être ça va partir dans des directions un peu inattendues. Je suis prêt à ça. Peut-être ça ne donnera pas grand-chose, en définitive, c'est possible. Mais n'hésitez pas à poser les questions qui vous taraudent. Et s'il y a une chose de certain, c'est que vous ne serez pas les premiers à vous être posé la question. Et vous ne serez pas les derniers. Et peut-être un jour, ces questions vous seront posées à votre tour. Une des questions, en fait, qui est posée, et je crois que c'est une question très intéressante, c'est de dire, finalement, le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Et donc, c'est surprenant. C'est-à-dire, si c'est vraiment aussi essentiel qu'on a pu le dire, là, comment ça se fait que ce mot n'existe même pas? En même temps, il faut se méfier. Parce que il y a très peu de mots que vous dites dans votre vie qui sont dans l'Écriture. Parce que l'Écriture ne parle pas français, par exemple. Donc, quand vous parlez de salut, le salut n'y est pas non plus. Ça ne veut pas dire que le concept n'y est pas. Il y a un mot en grec, en hébreu, qui traduit à peu près l'idée qu'on met derrière salut. À peu près, il faut se méfier. Et qui est ? Mais le mot salut n'y est pas. Bon, vous me dites, c'est pas très profond ce que je dis là, mais en même temps, vous touchez là à une des difficultés, c'est que nous avons là des textes très anciens, pour certains d'entre eux, enfin, au minimum, on va dire, 1900 ans, quelque chose comme ça. Pour les plus anciens, plusieurs millénaires, sans doute. Et qui n'ont pas, contrairement à ce que, par exemple, vous avez dans l'islam, où on dit le Coran a été écrit par Dieu et puis a été donné aux prophètes, vous avez là des textes qui sont venus peu à peu à peu, sur des centaines, des milliers d'années, avec une révélation qui est progressive. C'est pas quelque chose qui a été donné tout d'un coup. Et donc, vous avez des choses qui se préparent peu à peu dans les textes. Et il y a une progression dans la révélation. Et cette progression a fait un pas énorme avec la venue de Jésus-Christ. Parce que nous pensons, nous croyons que Jésus-Christ est Dieu lui-même. On va y venir tout à l'heure. Et quand Dieu lui-même vient sur la terre parler, c'est clair que ça ouvre de nouveaux horizons. Et donc, il y a des choses qui n'ont pas pu être dites avant, qui tout d'un coup deviennent plus claires, mais même quand Jésus est là, il a une certaine pédagogie dans son approche. C'est-à-dire, il ne donne pas non plus le truc tout cru. Jamais ou presque vous allez entendre Jésus-Christ dire « Je suis Dieu », par exemple. Mais il y a des choses qui sont tout aussi fortes, mais qui sont dites d'une manière à permettre une assimilation progressive. C'est-à-dire, un cheminement de la foi. Ça aurait été trop brutal de dire les choses comme ça. Et ça pose trop de questions à la fois. Et Jésus a dit, certaines choses, je n'ai pas pu vous les dire parce que vous ne pouvez pas les supporter. Mais je vous donnerai l'esprit qui, hein, à un moment donné, va vous permettre de comprendre peu à peu. Donc il y a cette progression-là. Et quand on a compris ça, on comprend aussi tout de suite que vous n'avez pas une espèce de manuel, de doctrine qui tombe du ciel avec paragraphe 1, 2, 3. Non, c'est quelque chose qui demande un certain travail sur le texte, un exercice de l'intelligence, et puis la théologie proprement dite, c'est-à-dire des gens qui discutent, qui sont travaillés par l'esprit, mais qui mutuellement s'aident à comprendre. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, de la doctrine, vous verrez que la doctrine a beaucoup avancé, notamment à cause des hérésies qui sont nées. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a dit « Ah non, finalement, j'ai tout compris. Jésus-Christ n'était pas Dieu, c'était un homme. C'était un homme extraordinaire. » Et puis les autres ont dit « Ouais, mais ça ne colle pas bien avec l'Écriture. Vous avez Jean 1, la parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Voyez-vous, c'est comme ça que la théologie s'est forgée. C'est pas tombé comme une météorite, schlac. Non, c'est quelque chose qui a nécessité des travaux. On s'est creusé la tête. Il y a des gens. Vous avez des gens parmi les plus grands génies de l'humanité, comme saint Augustin, qui ont travaillé sur ces questions-là. Donc, c'est quelque chose qui est venu peu à peu. Et je vous ai mis sur cette fiche un certain nombre de textes. Un texte qui date du 1er siècle de saint Irénée. Et si vous le lisez, vous verrez que là, il y a déjà cette intelligence de ces trois personnes. On va distinguer Dieu le Père, on va distinguer le Verbe, on va distinguer le Saint-Esprit. Vous n'avez pas encore une théorie tout élaborée de la Trinité. Et puis, vous avez le symbole de Nicée. Là, on est au 4e siècle. Et là, vous avez une formule élaborée, théologique, qui est dû notamment au fait qu'il y avait des hérétiques qui avaient contesté un certain nombre de choses. Et en réponse à ça, on a élaboré ces doctrines-là. Et je vous ai mis aussi un texte de 500, vous voyez un peu le raffinement de la pensée. Donc ce n'est pas quelque chose qui est tombé tout d'un coup, et ce n'est pas comme ça qu'on avance dans la révélation biblique. C'est un processus, c'est quelque chose qui peut s'étaler sur des siècles. Et c'est pas grave. Alors, je reviens à cette question. Est-ce que le mot, est-ce qu'il est dans l'Écriture ? Non, le mot n'y est pas. Mais c'est absolument pas grave. Parce que ce qui est important, c'est que... Et la question de fond est, est-ce que cette doctrine y est ? Parce que finalement, le mot « Trinité » n'est qu'une façon commode de résumer en un mot quelque chose de beaucoup plus complexe. Le mot Trinité, qu'est-ce que ça veut dire ? Le mot Trinité veut dire le fait d'être trois. Ni plus, ni moins. Trinité veut dire le fait d'être trois. Ça ne veut rien dire. Mais ça veut dire quelque chose parce que dans l'usage de l'Église, ça désigne toute une doctrine. Et cette doctrine, moi je trouve, il y a un résumé assez sympathique que je dois à Lanisius, qui est prof à la fac de Vaud, à Paris, et que je vous l'ai mis sur cette feuille. Il dit, le dogme peut se formuler dans un langage très simple. Il n'y a qu'un Dieu, un seul Dieu, il y a un seul Dieu, pardon, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Pourtant, le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit, l'Esprit n'est pas le Père. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont dans cet ordre. Le Fils procède du Père, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Donc ça, c'est en quelques mots le dogme de la Trinité. Et je vous ai dit, c'est le fruit de toute une élaboration. Parce que, au départ, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les Écritures. Et les Écritures, évidemment, elles ne formulent pas les choses de cette manière-là. Mais vous avez, par exemple, le prologue de l'Évangile de Jean, où vous vous rendez compte qu'avec Dieu, c'est un peu complexe. Hein ? Au commencement, il y avait Dieu. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc là, vous avez tout de suite une petite difficulté de compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce possible que quelque chose qui est Dieu est avec Dieu ? Et donc distinct de Dieu. Et on n'a pas le temps de voir tous ces textes. Mais plus tard, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, 15, il y a un autre personnage qui apparaît, qui est l'Esprit, qui va remplacer Jésus. Jésus dit, je m'en vais, mais je vous enverrai un autre avocat. Et il est mieux pour vous que je m'en aille, parce que comme ça, je peux l'envoyer. Donc cet Esprit n'est pas Jésus. C'est un autre. Mais vous allez aussi découvrir des textes, si vous lisez, qui vous montrent que cet esprit-là est Dieu, parce qu'il fait les choses que fait Dieu. Donc vous avez déjà ces trois-là, quelle est exactement leur relation. Et là, les gens ont hésité, ont tâtonné. Il y a des gens qui ont dit, il n'y a qu'un Dieu. Ça, c'est une affirmation classique. Ancien Testament, très massif. Nouveau Testament, également affirmé. Il n'y a qu'un Dieu. Mais s'il n'y a qu'un Dieu, et puis il y a ces trois, et puis ils ne sont pas... Hein, la parole est avec Dieu, mais elle n'est pas Dieu. Et un des... Ah, on a compris. Ce n'est que des visages de Dieu. Il n'y a qu'un Dieu, mais il se présente une fois comme ci, une fois comme ça. Et ça, c'était le mouvement qu'on a appelé le modalisme, ou le sabellianisme. Sabellius était un théologien qui pensait comme ça. Et l'Église s'est rendue compte, non, c'est pas une bonne approche. Et d'ailleurs, vous avez des scènes dans la Bible qui sont proprement trinitaires. Vous avez une scène, par exemple, le baptême de Jésus, où vous avez le Père qui dit, ceci est mon Fils, et l'Esprit descend sur le Fils. Donc là, les modalistes ont quelques difficultés avec ce genre de texte. Donc, maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut peut-être encore un autre avertissement. C'est que c'est pas non plus, comment dire, c'est pas non plus l'abandon de la logique. Nous avons là quelque chose qui nous dépasse. C'est-à-dire comment il peut y avoir unité avec trois personnes, de sorte que qu'on puisse dire Dieu est un, il n'y a qu'un seul Dieu, et en même temps ce Dieu se présente sous trois personnes. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Je crois qu'il faut le reconnaître. Mais ce n'est pas non plus l'abandon de la logique. C'est-à-dire il y a, paraît-il, je n'ai jamais entendu, mais il y a un petit cantique pour enfants où on dit « Dans le pays de Dieu, 1 plus 1 plus 1 égale 1. » Ça, c'est pas vrai. C'est n'importe quoi. Nous ne sommes pas dans ce genre de paradoxe où c'est à la fois 1 ou 3. Il faut bien comprendre que cette affirmation « Dieu est 1 et Dieu est triple » c'est pas sur le même plan. Et c'est là que il faut que j'introduise deux notions de la théologie qui sont la substance, les vieux théologiens disaient comme ça, ou l'essence si vous préférez, ou la nature pourrait-on peut-être dire, c'est-à-dire par exemple la nature c'est l'ensemble des caractéristiques qui fait que quelqu'un est quelque chose et quelque chose. Alors, je m'explique. Par exemple, un cheval. il existe une nature chevaline. Hein. Et quand je vous dis un cheval, vous savez tout de suite ce que c'est. C'est un ensemble de choses qui fait qu'un cheval n'est pas un chimpanzé. Hein. Et vice-versa. Hein. Donc il y a quelque chose comme une nature chevaline. C'est difficile de définir dans le détail ce que c'est, mais quand quelque chose a ces caractéristiques-là, on dira c'est un cheval. Chacun d'ici, dans cette salle, partage de la nature humaine. Vous êtes tous des hommes, hein, au sens que vous avez tous la nature humaine. Vous partagez tous de cette nature-là. Hein. Et donc, vous êtes tous très différents les uns des autres, mais vous avez cela en commun, au moins ça. Même plus que ça, mais vous partagez ça. Ça, c'est le concept de la nature. Et selon la nature, tu es un. Ça veut dire que il n'y a qu'un seul Dieu. Hein? Indivisible. Il y a un autre concept qu'il faut comprendre, et ça, c'est quelque chose que les pères de l'Église ont élaboré. C'était même pas disponible dans la philosophie de leur jour. Hein? Tellement c'était difficile, en fait, à mettre en œuvre. C'est le concept de personne. Aujourd'hui, c'est un concept très, très commun. Mais ça ne l'était pas avant. Et qu'est-ce que c'est que la personne? La personne, c'est ce qui permet de dire « je ». Vous êtes tous des êtres humains, mais chacun d'entre vous est un « je ». Et ce « je » est unique. Il n'y en a pas deux. Et ça ne se confond pas. Moi, je suis « je », lui, il est « je », mais nos « je » peuvent se fréquenter, mais pas se confondre. Et selon les personnes, Dieu est triple. Il y a en Dieu, dans ce Dieu unique, dans cette essence, substance divine, il y a trois personnes. Et ces personnes sont le Père, le Fils et l'Esprit. En tout cas, selon la doctrine de la Trinité. Donc, on n'est pas en train de dire 1 égale 3. Hein? Ça serait trop bête de dire les choses comme ça. On n'a pas complètement abandonné toute logique, hein? Mais on compare à des niveaux différents. Hein? Donc, dans le pays de Dieu, 1 plus 1 plus 1 égale 3. Hein? Pas 1. Bien. Alors... Les théologiens se posent toujours des questions un peu difficiles. Quand je vous dis le Père, le Fils, l'Esprit, vous avez peut-être des idées derrière la tête. Le Père, vous l'imaginez d'une certaine manière, le Fils aussi. Jésus est peut-être le plus facile à imaginer. Et puis l'Esprit, ça c'est un peu plus compliqué. Mais comment... Qu'est-ce qui les distingue, au fond? Qu'est-ce qui fait que le Père est Père, que le Fils est Fils, et l'Esprit est Esprit? Est-ce que vous avez une idée comme ça? Ou est-ce qu'ils sont interchangeables, en fin de compte?
Le fait qu'ils procèdent l'un de l'autre, enfin, que le Fils procède du Père, et que l'Esprit procède du Père et du Fils.
Oui. Et d'où tu sors ça? D'où tu sors ça?
Oh, c'est le stream de Jules Marcel Nicole.
Oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire que si vous pensez. Vous savez facilement identifier Jésus comme étant celui qui est mort à la croix. L'Esprit, c'est celui qui, dans l'économie de la foi, fait en sorte que les personnes puissent croire. On va simplifier un petit peu. L'œuvre proprement dite de l'Esprit, c'est de ramener les gens vers Jésus. C'est ça sa mission, et c'est ça son but. Et là où l'esprit est à l'œuvre, vous verrez ça. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Et le Père, c'est dans l'économie du salut, c'est celui de qui tout cela vient, c'est-à-dire qui a eu ce projet. C'est le grand concepteur, pour répondre. Et le moteur, peut-être, d'une certaine manière, derrière tout. Mais ça, c'est dans l'économie du salut, c'est-à-dire c'est dans les choses qui sont passées après la création de ce monde. Mais quand on remonte au début, si j'ose dire, avant la création du monde, comment on les distingue, les trois? Et c'est là, en fait, que l'Écriture nous donne des indices. Ce qu'il vient de dire résume assez bien l'enseignement de l'Écriture à ce sujet. C'est-à-dire, ce sont des relations particulières. Et ce sont des relations qui font que chacun est unique, d'une certaine manière, et ne se confond pas avec les autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez le Père et le Fils. Et, je veux dire, leur nom même nous met sur la voie. Il y a là une analogie, Christ de lui-même, d'une relation très caractéristique entre un Père et son Fils. Donc, le Fils, nous venons de l'entendre, le Fils procède du Père. Et vous trouverez ça dans les formules que je vous ai données. Ce sont des choses qui sont vraiment dites dans l'Écriture. Le Fils procède du Père. Le Fils vient du Père. Et quand vous écoutez Jésus parler, vous allez découvrir qu'il ramène toujours tout au Père. Le Fils est en mission. C'est le Père qui l'a charge d'une mission. Et le Fils ne dit rien que ce qu'il a entendu du Père. Vous lirez l'évangile de Jean, là vous avez vraiment toutes ces formules magnifiques. Donc le Fils vous ramène toujours au Père. Le Fils se réfère au Père. Le Fils vient du Père. Alors, là qu'on a, on a un petit peu de problème de langage, vous allez trouver la forme engendrée. Si vous prenez la formule de Nicée que je vous ai donnée, elle nous dit, nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né, on pourrait aussi traduire, engendré du Père avant tous les siècles, engendré et non créé. Bon, le terme est difficile parce que engendré, pour nous, ça sonne un peu comme si il y avait un moment où le Fils n'existait pas, qu'il n'y avait que le Père. Et ça, c'est pas vrai. Cet engendrement-là est sans doute quelque chose il ne faut pas imaginer ça d'une manière chronologique, mais plutôt dans l'être. C'est-à-dire, ce Fils, il vient du Père. Fondamentalement, c'est sa référence. C'est de là qu'il vient et vers là qu'il tend. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu un moment dans l'histoire du salut où le Fils n'a pas existé. Ça, c'est une hérésie. Les Ariens l'ont cru, les témoins de Jéhovah le croient, mais c'est une hérésie. Il faut condamner cette doctrine. Le Fils a toujours existé. Tout a été créé par lui et pour lui. Et lui-même, il est incréé. Mais il y a quelque chose dans cette relation entre ces deux personnes qui fait que l'un est le Père, l'autre le Fils. L'un est l'origine. C'est dangereux ces mots-là, mais avec toutes les précautions de langage, on peut dire l'un est le principe et l'autre se réfère à ce principe. Et c'est ça qui fait que le Père est unique, parce que lui, il ne procède de personne. Il n'a pas cette relation de type fils. Alors que le Fils, il procède du Père. Et ça, c'est typique de lui. Et l'Esprit, tu as dit tout à l'heure, il procède du Père et du Fils. C'est la formule de Nisus, mais Plus précisément, dans le langage de l'écriture, il faudrait dire l'esprit. Comment ils disent ? Il y a un mot pour ça. Ah, pardon, je me suis trompé. Donc, le Fils, il est engendré. C'est ça le terme technique. Il est engendré du Père, né de Dieu. Et l'esprit procède de Dieu et du Fils. Et le terme technique de la théologie, c'est l'aspiration. Vous savez, le souffle, l'esprit, c'est le souffle. Et l'image, en fait, c'est le Père et le Fils spirent, soufflent l'esprit. Et donc, l'esprit vient des deux, d'une certaine manière. D'une manière différente que celle dont vient le Fils du Père. Mais en tout cas, il vient, il est soufflé à la fois du Père et du Fils. Et en cela, il est unique. Aucune des autres personnes de la Trinité procède de deux autres. Alors que, donc, si on veut comme ça, on établit une différence entre ces personnes-là, sans qu'on ait besoin de l'histoire du Seigneur. Ils sont, comme on dit en philosophie, ontologiquement différents. Ils ont des relations différentes les uns avec les autres. Bon, je pense qu'on a atteint le comble de la difficulté avec ça. Maintenant, ça deviendra peut-être un peu plus sympathique. Je vous propose, si vous n'avez pas de questions, qu'on traite des questions qui ont apparu dans vos discussions. Et ça sera peut-être l'occasion d'enchaîner avec d'autres.
Oui. Je voudrais savoir, est-ce que dans la Bible, est-ce que Jésus lui-même, il a dit, il est le Dieu en parole?
Pardon, si?
Si Jésus a dit dans la Bible, est-ce que Jésus a dit lui-même qu'il est le Dieu? Je ne me rappelle pas, il a dit directement.
Non.
Moi, je suis le Dieu.
Non, comme ça, je crois qu'il ne l'a pas dit. Non. Enfin, sauf erreur, mais je n'ai pas souvenir d'un texte où il le dit aussi directement. En revanche, il fait beaucoup d'affirmations qui établissent de manière tout à fait claire qu'il a totalement conscience de sa divinité. Oui, vous avez toutes ces affirmations. Je suis le vrai berger. Ça vous renvoie dans l'Ancien Testament où Dieu annoncera qu'il s'occupera lui-même de son troupeau. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, vous savez des textes dans lesquels Jésus établit clairement une référence avec la divinité. Si vous prenez le texte, par exemple, où, lors de son procès, on le confronte avec ses faux témoignages, comme quoi il voulait détruire le temple, ce genre de choses. Et puis, à un moment donné, il dit, le souverain sacrificateur lui dit, est-ce que tu es vraiment le Christ? Et qu'est-ce qu'il dit là, Jésus?
Je le suis.
Comment?
Je le suis. C'est toi qui me dis.
C'est toi qui me dis.
Il dit, désormais vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées. Sur les nuées. Ça c'est une prérogative divine. Le Fils de l'homme, chez Daniel, c'est celui qui est assis à la droite de Dieu. Enfin bref, Jésus est plutôt dans le registre de l'indirect. Et je pense que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme par souci pédagogique. Les gens n'étaient pas forcément prêts, tout de suite, à entendre qu'il était Dieu. Mais certains l'ont compris. Quand Thomas, par exemple, voit le Christ ressuscité, il dit « Mon Seigneur, mon Dieu », et Jésus accepte cette adoration. Il ne pourrait pas le faire s'il était une simple créature. Quand vous avez un ange, typiquement dans l'Écriture, un ange, un homme, le prend pour Dieu, l'ange va tout de suite prendre la précaution et dire « Attention, ne te trompe pas, je suis une créature comme toi. » Mais Jésus accepte cette adoration. Donc je pense que le dossier biblique est assez riche pour dire sans hésitation que Jésus avait conscience de sa divinité. Mais il l'a dit d'une manière un peu, je dirais, pédagogique. Alors, là, une question qui était posée, qui disait, Dieu seul connaît le moment du retour de Jésus, non. Alors, il y a une certaine hiérarchie. Ça fait allusion à ce texte où Jésus dit qu'il n'y a que le Père qui connaît le moment où ces choses se passeront. Alors, cette question-là, elle quitte un petit peu le domaine de notre étude de ce soir, parce que, en fait, il y a une deuxième difficulté dans la théologie chrétienne. Et cette deuxième difficulté, ce deuxième mystère, un mystère de lumière, c'est que Jésus est à la fois homme et Dieu. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a trois personnes dans la divinité. Une divinité, trois personnes. Hein. Mais la personne du Christ, elle a en plus, elle comporte la difficulté qu'elle a deux natures. En cela, il est totalement différent des autres. Hein. Et donc, Jésus est à la fois homme et Dieu, selon la théologie chrétienne, selon l'Écriture. Et évidemment, ça pose énormément de problèmes pratiques. Hein. Comment imaginer qu'on puisse être à la fois infini et fini, à la fois omniscient et limité, hein. Enfin, bref, là, vous avez de quoi pas dormir pendant un mois, hein, si vous posez ces questions. Et c'est un cas totalement unique, hein, donc on n'a pas forcément réponse à toutes ces questions, hein, mais il faut l'affirmer qu'il y avait ces deux. Et il y a apparemment dans l'homme Jésus, hein, l'homme Jésus ne bénéficiait pas à tout instant pendant sa vie terrestre de toutes ses ressources dues à sa divinité. Je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, il y a des choses que l'homme Jésus ne savait pas. Sans doute, mais on est sur un terrain très glissant avec ça. Hein. Sans doute peut-on imaginer qu'il a abdiqué un certain nombre de prérogatives, hein, pour sa mission. Mais il y a eu des hérésies dans ce domaine et je ne voudrais pas trop insister là-dessus. Et c'est complexe. Mais ce fait-là, je pense, se réfère plus à l'humanité du Christ, hein, à distinguer de sa divinité, que d'un rang de Jésus, Dieu, au sein de la Trinité. Je pense que cette question-là nous amène plutôt sur ce terrain-là. La deuxième question se réfère à 1 Colossiens 15, 27 à 28. Hein. Le Père est-il supérieur aux deux autres? Alors, est-ce que quelqu'un pourrait nous lire ce texte? C'est 1 Corinthiens 15, 27 et 28. 1 Corinthiens. Allez, un cours à deux.
Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui-ci qui lui a soumis toute chose est accepté. Pardon, Marie,
oui, c'est ça.
Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous.
Je pense que on touche là quelque chose de profond, mais à la fois quelque chose qu'on peut assez facilement comprendre. C'est-à-dire, si je comprends bien, l'initiative du plan du salut vient du Père. Et le Père a chargé le Fils d'une mission, que le Fils a volontiers acceptée et que vous connaissez. Cette mission étant terminée, hein, tout est accompli, hein, le Fils remonte vers le Père et il envoie l'Esprit. Et nous sommes aujourd'hui dans l'époque de l'Esprit, pourrait-on dire, dans l'économie du salut. C'est-à-dire, vous voyez l'Esprit à l'œuvre, de convaincre, de pécher, de jugement, convertir, pourrait-on dire, les gens. Et, comme je vous ai dit tout à l'heure, la mission de l'Esprit est christocentrique. Il veut ramener tout le monde au Christ. Et je ne sais pas si quelques-uns étaient là, mais à un moment donné, j'ai montré dans cette église un schéma de l'histoire des deux testaments, hein, avec une convergence vers le Fils, hein, un tas de fils qui convergeaient vers un point focal qui était le Christ, et puis le rayonnement du Christ, ça c'est la nouvelle alliance. Hein. Et nous sommes dans cette période de rayonnement du Christ, mais cette période prendra fin avec le retour du Christ, hein, de nouveau un point focalisant. Ça, c'est le moment vers lequel tend l'histoire. Hein. On a peut-être du mal parfois à le voir, mais nous sommes actuellement en convergence vers ce point-là. Je ne sais pas quand ça va se produire, mais ça viendra. Et quand cela se fait, hein, en fait, le focus va bouger du Christ à le Père. Parce que la mission du Fils, c'était de te ramener au Père tout ce qui devait revenir au Père. Hein. Et donc, le comble de l'histoire, l'aboutissement de l'histoire, c'est quand tout sera soumis au Père. Et là, le Fils reprendra sa place qui est la sienne, c'est-à-dire cette place filiale. Il ramène tout vers le Père. Donc vous avez ce mouvement du Père vers le Fils, l'Esprit, les fils vers le Père. Et donc, ce texte-là, il me semble, exprime cette dernière épisode. Hein, ce moment final, hein, où tout sera de nouveau soumis au Père. Est-ce que ça veut dire que le Père est supérieur aux autres? Non, je ne pense pas. Enfin, voyez-vous, je ne pense pas qu'il faut voir une espèce de degré d'infériorité ou supériorité dans la divinité, mais il y a un ordre. C'est ce que vous avez vu aussi dans la parole d'Alanisus qu'on a lu tout à l'heure. Il y a un ordre. Et dans l'Écriture, typiquement, vous avez l'ordre, le Père, le Fils, l'Esprit. C'est ça l'ordre. Hein? Parce que le Père est l'origine, le Fils, il est engendré du Père et l'Esprit procède du Père et du Fils. Hein? Il y a cet ordre logique.
Oui. En fait, je voulais vous demander justement par rapport à ce que vous dites, parce que Jésus dit le Père est plus grand que moi.
Oui, je pense que ça s'insère dans ce schéma-là. Alors, avec matinée de la difficulté que j'ai mentionnée tout à l'heure, que c'est l'homme Jésus qui parle. Donc, je n'oserais pas répondre comme ça, quel est prépondérant, mais je crois même dans une logique totalement trinitaire, hein, on peut le dire de cette manière-là, c'est-à-dire le Père est plus grand que le Fils, parce que le Fils se réfère au Père. Il y a probablement.
Il y a l'espace universel,
oui, oui.
Où ils sont réunis en un, puis il y a le moment où Christ est sur terre.
Mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas céder à la facilité d'imaginer qu'à un moment donné, dans la Trinité, il y avait une place abandonnée.
Ah non, hein?
C'est-à-dire, le Fils a toujours été au sein de la divinité, même quand le Fils, homme, était cloué sur la croix. Hein? Il ne faut pas croire qu'il a abandonné sa place. C'est impensable. Oui, bien sûr. Et donc, il peut effectivement y avoir un petit peu de ça quand il dit le Père est plus grand que moi. Mais je pense qu'on pourrait éventuellement le dire dans une logique purement trinitaire. Alors, maintenant vient une question très pratique de la prière. Et ça, c'est très intéressant. Hein? Jésus-Christ nous dit de prier à Dieu le Père, mais en son nom. Doit-on s'adresser à Dieu, au Fils, au Saint-Esprit, à un seul, à tous? Alors, si on prend au sérieux tout ce qu'on vient de dire, il faut dire le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu. Et Dieu, je veux dire, vous ne faites jamais de faute en priant Dieu. Donc vous pouvez prier le Père, vous pouvez prier le Fils, vous pouvez prier le Saint-Esprit, mais dans l'Écriture, vous ne trouverez pas une seule prière adressée au Saint-Esprit. Donc, est-ce une faute de prier le Saint-Esprit? Non, je ne pense pas. Est-ce normal? Je ne pense pas non plus. C'est-à-dire, si vous avez compris ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur la mission de l'Esprit, ça c'est très important de comprendre. L'Esprit, il n'a qu'un but, il veut glorifier le Fils. C'est ça sa mission. Il veut ramener au Fils les gens. Il veut convaincre de péché. Il veut convaincre de jugement. Il veut convertir les gens. C'est ça sa mission. Et tout ce qu'il veut, c'est que le Fils soit glorifié. Donc, Si vous glorifiez l'esprit, vous ne ferez pas de faute, mais ce n'est pas ça qu'il veut. Ce n'est pas ça son but. Et là où est l'esprit, là, c'est là où on adore le Fils. C'est là que le Fils est glorifié. Donc, je force un peu le trait, mais je veux dire, vous allez rendre mal à l'aise l'esprit si vous le mettez sur un piédestal. Ce n'est pas ça qu'il veut. Ce n'est pas ça sa mission. Il est christocentrique. Et donc, méfiez-vous. Moi, je vous donne un critère de spiritualité, là. Méfiez-vous de spiritualité qui sont pneumatocentriques. C'est-à-dire, on glorifie tout le temps l'esprit. C'est pas ça. Là où est l'esprit, vous le reconnaîtrez par le fait que le Christ est au centre. Et si on se préoccupe avant tout de l'esprit, c'est qu'on n'y est pas. Oui. Oui, oui. Oui, c'est ça, oui. Oui, oui. Ça, là est toute la difficulté conceptuelle, mais en un, je veux dire, un en substance, comme on l'a dit, mais trois en personne. Il y a trois « je » dans la divinité. Et Saint-Esprit dit « je », et vous pouvez attrister le Saint-Esprit. C'est quelqu'un, c'est pas une puissance quelconque, c'est quelqu'un. Mais c'est quelqu'un dont le but suprême, c'est de ramener les gens au Fils. Oui. Oui, vous pouvez, bien sûr. Et il est Dieu. Hein. Et donc, vous pouvez prier, Saint-Esprit. Il n'y a aucun souci à ça. Hein. Ne vous sentez pas... Mais tout ce que je veux vous faire toucher, c'est que l'Écriture ne le fait jamais. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas ça son but. Hein. Donc, est-ce que vous pouvez prier? Oui, on peut prier le Saint-Esprit. Normalement, je vais vous dire quelque chose. Normalement, la prière selon l'Écriture, elle est adressée au Père. Elle est adressée au Père par le Fils dans le Saint-Esprit. Donc votre prière est un acte trinitaire, mais elle est ultimement destinée au Père. Et je voudrais vous inviter à en être conscient. C'est-à-dire, quand vous priez, dites-vous qui vous priez. Je vous ai dit, vous pouvez prier le Fils. Il y a quelques prières adressées au Fils dans l'Écriture. Vous pouvez le faire. Mais si vous priez le Fils, soyez-en conscient. Et si vous priez le Père, soyez-en conscient. Et si vous priez l'Esprit, parfois, soyez-en conscient. Hein? Parfois, on voit, on entend des prières un peu... on ne sait pas très bien, en fait, où ça va. Hein? On dit merci d'être mort pour moi à la croix et puis dans le nom de Jésus et puis voilà. Bon, c'est pas un péché, je ne pense pas, mais c'est un peu malheureux quand même. Hein. Donc priez et sachez qui vous priez. Et normalement, si vous priez selon l'Écriture, vous allez prier le Père. Hein. Alors comment prier le Père? Mais comme le Jésus l'a dit. Adressez-vous, Père, notre Père. Hein, c'est la prière classique, notre Père. Hein. Alors, j'ajoute un petit mot. J'entends parfois des gens qui prient papa. Hein. Là encore, je ne pense pas qu'on est dans quelque chose de condamnable, mais ce n'est pas comme ça que l'Écriture nous ordonne de prier. Hein. Et parfois, ça c'est une vieille légende, j'étais désolé de l'entendre encore, du haut de la chair. C'est une bêtise. Abba Père ne veut pas dire Papa Père. Père. Abba, ça veut dire Père, et rien d'autre. C'est pas un langage d'enfant. Et je pense que le Père, tel qu'il se manifeste dans l'Écriture, certes, nous sommes ses enfants, mais c'est un Père quand même qui doit être respecté. Et je pense que une trop grande familiarité s'éloigne de la spiritualité biblique, tout ce que j'ai envie de dire. Donc, priez le Père, priez le Fils, oui.
Si on prie par l'Esprit, dans la prière, les trois sont contenus en lui en fait. C'est pour ça que moi, cette peur de trop cloisonner et de trop séparer les trois, finalement, enfin, personnellement, moi je parle dans ce que je ressens, moi je le sens pas. Je veux dire, quand je cligne, c'est à un moment donné plus spécialement moi qui le fais, c'est parce que je suis guidé par l'esprit et que je prie Jésus, que je sois dans le cœur de Jésus ou pas, ça fait un, ça fait Dieu. En fait, c'est la même.
De toute façon, il n'y en a qu'un.
Il n'y a pas le cloisonnement, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Bah, il se fait peut-être au niveau des mots, mais pas au niveau de ce qui se joue dans la prière, en fait.
On contourne toujours la même difficulté, hein. Il y a un Dieu en trois personnes. Donc vous pouvez dire, je m'en fous des personnes, je m'adresse à Dieu. C'est ok, il n'y a pas de souci. Je ne critique pas ça.
Moi je pense qu'il y a aussi plusieurs types de prières. Il y a des prières de remerciement, il y a des prières où on demande quelque chose. Quand on remercie, moi je pense que c'est sain de remercier au Saint-Esprit pour son œuvre en nous, de nous convaincre, de nous faire comprendre ce qu'est l'Écriture. Je pense que c'est juste de remercier Jésus pour ce qu'il a fait sur cette terre. Mais je pense que c'est juste de remercier le Père d'avoir ce projet. Par contre, quand on demande des choses, quand on essaye d'avoir des idées pour la suite, etc., c'est peut-être plus juste de s'adresser au Père, puisque c'est lui qui a l'origine des projets.
Tout ce que je dis, c'est que quand on a demandé à Jésus comment prier, il a dit « Priez notre
Père ». Notre Père.
Hein. Donc, mais ceci étant dit, il y a de la latitude. Hein. Je ne dis pas que c'est comme ça, mais je pense qu'on a toujours intérêt à se conformer à un modèle biblique. Tout ce que je dis. Si vous vous éloignez, vous faites à vos risques et périls. Probablement, si vous priez l'Esprit, il n'y a rien de grave. Hein, mais vous êtes déjà un petit peu à la marche. Hein. Mais faites-le si vous le sentez. Hein. Moi, je n'ai pas à critiquer ça. Je vous ai mis sur cette feuille-là un extrait d'une prédication de John Stott. Est-ce que vous connaissez John Stott? John Stott, c'est un des très très grands théologiens évangélique de ce siècle passé. Et il vient de mourir. Hein. Il est mort cette année. Et je vous l'ai mis en anglais. J'espère que ça ne vous pose pas de problème. Sinon, on pourra vous fournir une traduction. Et c'est très intéressant. En fait, lui, il commençait la journée par une prière adressée à la Trinité. Et je vous l'ai mis parce que je trouve que c'est intéressant. Il adore le Père, il adore le Fils, le Saint-Esprit, et puis il formule même une requête à l'égard de chacune de ces personnes. Je trouve ça extrêmement intéressant, et peut-être votre prière pourra s'en inspirer. Alors, je continue dans ma liste. Il est dit qu'on ne peut blasphémer contre l'Esprit. Mais peut-on blasphémer contre Dieu ou contre Jésus? Pourquoi l'Esprit était supérieur? Donc, ça, c'est cette question, si vous voulez, elle reprend le fait que Jésus dit, il y a une chose qui ne peut pas être pardonnée, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et ça fait flipper pas mal de gens, parce que vous imaginez, si vous commettez ce péché-là, c'est extrêmement grave. Et c'est vrai que là, d'une certaine manière, c'est l'esprit, pour une fois, qui est singularisé. On peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi l'esprit? Et si je blasphème contre Dieu le Père, est-ce que ce ne serait pas plus grave? Et je pense, je vous donne ma version, hein, vous pouvez l'adopter ou pas, je pense que c'est assez logique quand on a compris comment on obtient le pardon de ses fautes. C'est que la repentance est un don de Dieu et elle est donnée par l'Esprit. Et donc, si vous blasphémez l'Esprit, c'est-à-dire si vous résistez à l'action de l'Esprit en vous, quand l'Esprit vous travaille, quand l'Esprit vous dit « Ah, il y a quelque chose, il faut y aller, hein, c'est Jésus-Christ hein, », et si vous tuez ça, vous dites « Non, l'Esprit, j'en veux pas », vous êtes en train de jeter la seule chose qui peut vous sauver. Et c'est pour ça que le blasphème contre le Saint-Esprit est si grave. Parce que ça vous coupe de la possibilité d'être pardonné par le mécanisme même du pardon dans les communes du Seigneur. Je ne sais pas si c'est clair pour vous ce que je dis, mais c'est l'Esprit qui nous apporte cela. Et si vous blasphémez contre l'Esprit, si vous rejetez son action, de ce fait même, vous êtes foutu. que c'est, ça peut venir que par lui. Et si vous le rejetez, lui, c'est cuit.
Et donc, ça veut dire qu'on rejette le salut, parce que je ne sais pas si je sais bien
ce que vous me dites. Bah, là, je veux dire, ça c'est quelqu'un qui, enfin, tel que je comprends, hein, c'est quelqu'un qui est attiré vers le salut, hein, mais qui décide de ne pas y aller. Qui ne veut pas de ce pardon, hein, qui rejette l'action de l'esprit en lui. Hein. C'est comme ça que je le comprends en tout cas. Et donc, si vous bloquez l'action de l'esprit, vous êtes foutu. Donc, c'est, à mon avis, ce n'est pas quelque chose qui peut arriver à un chrétien. Vous comprenez bien, hein, parce qu'il a déjà l'esprit. Hein. Donc, c'est pas, on ne parle pas de la perte du salut, là, à mon sens. Hein. Que je comprends les choses.
Mais c'est pas quelque chose d'instantané en fait, ce PSUM. C'est-à-dire, c'est pas, par exemple, une personne pour rejeter un
peu. Tel que je comprends, non.
Hein. Après, pour revenir à lui,
vous pouvez peut-être insulter de manière très vulgaire le Saint-Esprit. Je pense pas que, automatiquement, vous êtes sur cette. En train de placer l'esprit au sens de la parole de Jésus.
Hein. C'est en fait jusqu'à la fin de sa vie, on refuse carrément.
Voilà, je dis non. Je dis non, je ne veux pas toi. Et là, je me coupe moi-même de tout ce qui peut me sauver.
Il y a des évangiles quand Jésus parle de se placer contre le Saint-Esprit. Oui. C'est Marc d'après qui dit cela parce que il y en a qui disaient chasser des morts par des
ennemis. Oui, voilà, oui. Exactement. Hein. Vous avez là quelque chose. Là, l'Esprit est en train de faire quelque chose. Ils sont devant eux, Jésus, qui fait des miracles. Hein, avec la puissance de l'esprit, hein. Et ces gens-là disent c'est un démon, hein. C'est-à-dire ils bloquent, hein. Ils font exactement ça, ils disent non, on ne veut pas voir, hein. Vous savez exactement ça, dans la résurrection de Lazare, Jésus ressuscite Lazare, et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent il faut tuer Jésus et Lazare, hein. Ils sont en train de faire ça, ils ne veulent pas voir, ils savent très bien que quelque chose d'extraordinaire se passe, mais ils disent non. On n'en veut pas. Enfin, c'est comme ça que je comprends. Alors, je continue. Je crois qu'on ne va pas venir au bout. Hein. Pourquoi, lorsque Jésus nous enseigne comment prier, nous dit-il de prier Dieu le Père, et donc pas lui-même, et de prier en son nom à lui? Bon, là, j'ai déjà répondu. Hein. Vous savez, dans Jésus, c'est optique vers le Père. Hein, et dans l'Esprit, il est optique vers Jésus. Hein. Et donc, comme l'Esprit ne dirait jamais « Priez moi-même », hein, Jésus dirait, enfin, Jésus, vous vous emmenez vers le Père. Donc, c'est assez logique, me semble-t-il.
Puis, c'est vrai qu'il y a des passages bibliques dans Romains qui précisent que l'Esprit est là pour intercéder pour nous. Donc, s'adresser directement au Saint-Esprit.
Tout à fait. C'est vrai que dans la prière, en fait, dans la prière chrétienne, la Trinité intervient dans son totalité. C'est-à-dire, supposons que vous adressez la prière que nous a donné Jésus au Père, hein, vous pouvez le faire parce que vous venez en Christ, parce que sinon vous ne pouvez même pas vous poser devant Dieu, hein, hein, et vous le faites dans l'Esprit, et l'Esprit surintercède les Écritures, hein, c'est-à-dire il est derrière les coulisses, et même si vous priez mal, il va faire que sorte que ça arrive au bon endroit. Moi je trouve ça très beau de voir que non seulement la Trinité est l'objet de notre prière, mais elle est même le véhicule de notre prière et le moteur derrière nous. Bien, pourquoi toutes les épîtres de l'apôtre Paul parlent bien du Seigneur Jésus comme étant le Fils de Dieu, toujours en faisant bien la part des choses entre Dieu le Père et Jésus-Christ? Bon, simplement parce qu'il y a une distinction des deux. Hein, et dans l'économie du salut, il y a un rôle du Père qui envoie le Fils, il y a le rôle du Fils qui accepte cette mission et qui va la mener à bon port. Donc, là aussi, je pense que ça se comprend assez bien. Dans l'Hébreu 1, on nous dit que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est supérieur aux anges. Ne serait-ce pas évident s'il est Dieu? Oui, si on part du principe que Jésus est Dieu, évidemment, c'est une précision inutile. Hein. Évidemment, Dieu est supérieur aux anges. Mais l'auteur de l'Hébreu, il parle à des juifs qui n'ont pas encore intégré que Jésus est Dieu. Hein. Donc, il va les amener peu à peu. Hein. Il va leur démontrer que il est supérieur aux anges. Hein. C'est une première étape. Hein. Mais, évidemment, il y a plus que ça. Hein. Si on avait que ce passage de l'Épître aux Hébreux comme écriture, on n'affirmerait peut-être pas la divinité de Jésus-Christ. Hein. Mais on n'a pas que ça. Bon, là, c'est une question un peu longue, je vais peut-être sauter. Le mot Trinité n'existe pas dans la parole, pourquoi? Donc ça, je crois qu'on a répondu.
Si.
Oui.
C'est
John Stott qui est décédé, oui.
Il
n'y
a pas longtemps.
Non, cet été.
Le 27
juillet. Il l'a vécu, c'est pour ça que ça me...
Oui, oui, oui.
Oui. Wilkerson aussi.
Ah oui.
On a fait. Oui, on a fait.
Comment?
Wilkerson est décédé, on a fait.
Oui, on a fait, mais je pensais que c'était
lui. Qui est mort en avril?
Wilkerson. David Wilkerson.
Wilkerson.
Oui.
D'accord. Si la Trinité existe véritablement dans la parole, alors il est intéressant de relever que dans les trois premiers versets de la Genèse, au chapitre 1, les trois premiers versets nous parlent de Dieu, de l'Esprit, de Jésus. Moi je dis prudence. Je dis prudence parce que il y a une logique dans la révélation et, comme je vous ai dit, tout n'a pas été fourni dès le départ. La Trinité est un élément de la révélation de la Nouvelle Alliance. Évidemment, vous allez trouver des traces de la Trinité dans l'Ancienne Alliance, mais il ne faut pas non plus imaginer que sous chaque pierre se cache la Trinité. Hein. Bon, nous savons que lors de la création, la Trinité était à l'œuvre, hein, c'est clair. Le Dieu le Père, c'est le Créateur. Le Fils, tout a été créé par lui et pour lui. Hein. Et l'Esprit, bah, effectivement, dans la Genèse, on voit l'Esprit se mouvoir au-dessus des eaux. Donc, moi, je dirais, dans la Genèse, je vois surtout le Père et l'Esprit. Hein. Pour voir le Fils, il faut lire entre les lignes. Et il ne faut pas voir, alors là, j'insiste, il ne faut pas voir le Fils dans la lumière. Hein. C'est ce que semble sous-entendre cette personne-là. Hein. Parce que la lumière fut créée, hein, alors que le Fils ne fut pas créé. Le Fils est engendré du Père, mais de toute éternité. À aucun moment il a été créé. Donc, il ne faut pas identifier là la lumière avec Jésus-Christ qui a dit par ailleurs « Je suis la lumière », et pas en ce sens-là. Donc je ne pense pas qu'au verset 3, qu'on puisse voir le Fils, à mon avis. Oui.
Est-ce que dans le livre de Genèse, je ne sais pas si c'est la traduction, mais je ne pense pas que la lumière a été créée.
La lumière était
décrédée.
On va appeler séparer l'obscurité et séparer de la lumière. Et...
Ben, il dit que la lumière soit.
Hein?
Oui. Est-ce que ça se met tout seul?
Ah ouais, enfin, à mon avis, ça veut dire qu'elle a été créée. Hein.
Il faudrait revoir en hébreu, mais là, je ne l'ai pas, j'ai pas en tête. Oui. Je l'ai mieux, mais je crois que Wilfried a raison. Dans la traduction grecque, ce n'est pas l'idée de création. Hein. Mais je peux, il faudrait que j'aie mon bouquin sous le nez. Mais ce n'est pas créé, c'est une séparation. C'est une conséquence de. Mais c'est pas une création au sens où je crée, quoi.
Ben, je ne comprends pas, il dit bien que la lumière soit.
Oui, mais parce que là, c'est la traduction. Mais en hébreu, je ne suis pas sûr que ce soit ça, en fait. Parce que c'est comme ça qu'il nous le traduit, oui.
Je ne sais plus par cœur.
Hein, parce que l'hébreu n'est pas forcément...
Mon avis, c'est bien créé, mais à vérifier. Donc.
À vérifier. Mmh.
Voilà. Pourquoi Jésus, dans les évangiles, dit toujours qu'il est là pour glorifier Dieu le Père? Il ramène toujours tout au Père et non à lui. Bon, ça, on a répondu. Hein. Ça, c'est vraiment parce qu'il est le Fils. Je pourrais dire facilement, ça c'est intéressant, je pourrais dire facilement que Jésus-Christ est mon frère, mais je n'arriverai pas à dire cela de Dieu le Père. Cela signifie pour moi qu'il y a bien une différence entre Dieu le Père et Jésus-Christ mon sauveur, mon frère. Ben oui. Vous ne pouvez pas dire de Dieu qu'il est votre frère. Ça va pas. Et je dirais même pour Jésus-Christ, il faut le nuancer. C'est-à-dire, il est frère dans son humanité. Et ça, il fait allusion à un texte en hébreu, où effectivement, il est dit, il fait ça pour ses frères. Il parle de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, qui agit pour ses frères. Mais là aussi, vous voyez quand même une différence de rang. Je veux dire, je pense l'israélite commun, ne tapez pas sur l'épaule du souverain sacrificateur. Hein. Donc, oui, il est notre frère, dans une certaine mesure, hein, dans son humanité, hein, pas dans sa divinité, et c'est un frère, un grand frère. Je vous fais observer que, ça c'est quelque chose d'intéressant, que Jésus dit « votre Père », et il dit « mon Père », mais jamais, jamais il dit « notre Père ». Il dit ça une fois, mais c'est dans cette fameuse prière, il dit « voilà comment vous prierez notre Père ». Donc c'est encore votre Père. Pourquoi il fait ça? Est-ce que ce ne serait pas le même Père? Le même Père? Si, bien sûr c'est le même Père, mais pas de la même façon. Donc, il est le Fils d'une manière très particulière. Nous sommes des enfants de Dieu d'une manière très différente, à mon sens. Mais il y a un lien entre lui et nous, de par son humanité. Et donc, nous pouvons dire Père à Dieu, mais jamais comme lui, il peut dire Père à Dieu. À mon sens. Et donc, vous pouvez l'appeler mon frère, Jésus, mais faites-le à la manière d'un grand frère à qui vous devez du respect. Alors, autre question intéressante.
Le geste du
pied.
Oui. Ah, je suis pas obligé.
Vas-y.
C'est juste pour revenir sur Genèse 1.
Oui.
Alors, moi, j'ai juste entendu l'interprétation que la troisième, c'était pas la lumière, mais c'était la parole.
La parole.
C'est pour ça que justement, Jean 1 reprend la parole pour le Fils. La parole était avec Dieu.
D'accord, oui. Donc, on peut voir. Et Dieu dit, c'est ça?
Oui, et Dieu dit.
Il crée
toujours par la parole.
Voilà, oui. Mais je vous ferai remarquer que le mot parole n'y est pas. Hein. C'est-à-dire, c'est Dieu qui dit. Donc, sous-entendu, il y a une parole. Mais si l'auteur avait voulu faire allusion à ça, probablement il aurait utilisé le terme parole. Il n'a pas fait. C'est intéressant de prendre. Mais. On peut gloser longtemps sur ce texte, c'est sûr.
Ouais, par rapport à l'histoire du Fils, il y a un passage qui est très énigmatique que je trouve dans le Fils, c'est quand Jésus il dit aux pharisiens, vous voulez me tuer parce que je dis que je suis fils de Dieu, mmh. Mais pourtant la parole, en s'adressant aux hommes, a dit que vous êtes des dieux.
Ah,
et je trouve ça très étrange que Jésus dise ça, en fait. Enfin,
ça, c'est un passage.
C'est vraiment
très difficile. Très difficile. Mmh. Parce que aussi le psaume,
ouais,
quand c'est le psaume 100, non
ouais, le 84, non
ouais, le psaume, il est difficile. Mais ça nous mènerait trop loin. Mais comment dire? Qu'est-ce qu'on peut dire en deux mots là-dessus?
Vous êtes comme des dieux, je crois.
Il faut comprendre une chose, c'est que le mot qui est utilisé dans le psaume, c'est Elohim. C'est le terme générique pour Dieu. Vous savez que dans l'écriture, Dieu a un nom propre. Ce fameux tétragramme qu'on ne sait pas prononcer, hein, les gens disent Yahweh ou Jéhovah ou je ne sais pas, mais on ne sait pas concernant comment prononcer. On sait que ce n'est pas Jéhovah, mais est-ce que c'est Yahweh ou pas, personne ne sait. Et ce n'est pas important. Et puis il y a Elohim qui est le terme plus générique pour divinité. Mais ce terme peut aussi être utilisé pour tout ce qui touche à la sphère divine. Et quand vous avez vous savez, cette femme spirit qui ressuscite apparemment Samuel pour Saül, vous connaissez cette histoire-là
hein?
Et tout d'un coup elle est effrayée, je crois qu'il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Et il dit, je vois un Elohim.
Hein?
C'est clair que ce n'est pas Dieu qu'elle voit, mais quelque chose, un fantôme, dirait-on peut-être, mais enfin, quelque chose qui appartient à l'au-delà. Peut-être on pourrait dire comme ça. Hein? Donc, et dans le psaume, vous avez aussi ce mot. Donc, est-ce que Dieu, quand il dit ça, vous êtes comme des dieux, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains, est-ce qu'il fait... Est-ce qu'on est en présence d'anges? Alors là, on pourrait en parler longuement. J'ai ma petite théorie, mais je ne veux pas vous polluer la tête avec ça. Donc, je préfère autant qu'on...
En fait, moi, ce que je c'est pourquoi Jésus, en fait, il reprend ce passage, justement, qui dit vous avez, la parole.
Bah, tel que je comprends les choses, en fait, Jésus est en train de les freiner de leur élan. C'est-à-dire, il leur dit, attendez, les amis, vous n'avez pas tout compris. Hein? C'est-à-dire, c'est beaucoup plus compliqué que vous imaginez, et même le psaume, là, il devait vous faire penser que les choses sont compliquées.
Hein? Ah, d'accord, hein? Dans ce sens-là, je comprends. Hein?
Et donc, comment dire, je crois qu'il est en train de vouloir les sauver. Je veux dire par là qu'il veut empêcher qu'ils aillent trop loin, parce qu'ils ne peuvent pas encore comprendre ce qui se passe. Honnêtement, ils ne peuvent pas. Ça serait trop difficile à porter. Il leur dit « stop hein ». Il met un argument qui peut paraître un peu sophiste. Je crois qu'il ne l'est pas. Je crois qu'il est plutôt destiné à leur dire « arrêtez les amis parce qu'il y a des choses qui vous dépassent ». Et le psaume en est un exemple. Là, vous ne pouvez pas me dire de quoi il s'agit. Donc, avancez prudemment. Donc, c'est comme ça que je le comprends. Et si c'est comme ça, je veux dire, ça serait même une grâce qu'il leur fait de leur dire « attention ». Là, vous marchez sur un train très dangereux. Alors, je voudrais quand même qu'on parle de ces fameux sept esprits de Dieu dans l'Apocalypse, parce que ça a pas mal enflammé les imaginations. Il y a eu des mouvements hérétiques qu'on a appelés les pneumatomaques, c'est-à-dire les adversaires de l'esprit. C'était des gens qui ne voulaient pas de la doctrine du Saint-Esprit. Et donc, ils ont sorti notamment ce verset dans l'Apocalypse, où, à un moment donné, dans un contexte qui semble assez trinitaire, on voit Dieu le Père, on voit le Fils, et on voit les sept esprits de Dieu. Et les gens disent, mais finalement, peut-être il y a la même sept. Hein. Donc vous n'avez pas une trinité, mais on arrive à neuf. Hein. Bon. Ceci étant dit, c'est pas très sérieux. Je vous le dis tout de suite, parce que, et ça c'est un conseil que je vous donne, ne lisez pas la Bible d'une manière plate. La Bible est un livre mille feuilles, et chaque couche doit être traitée avec prudence et avec respect. Et vous ne pouvez pas tout traiter de la même façon. Vous avez dans la Bible des textes historiques, qui sont des textes historiques. Vous avez des textes qui sont poétiques, vous ne pouvez pas les traiter de la même façon. Vous ne pouvez pas. Vous faites fausse route si vous faites ça. Vous avez des textes qui sont des textes de sagesse. C'est un genre littéraire. Il faut le respecter. Hein. Je ne sais pas si ici il y a des gens qui font des études de lettres. Hein. Profitez-en parce que ça va vous aider énormément dans votre lecture de l'écriture. Hein. De bien comprendre les textes, de bien les situer, de ne pas les violer. Hein. Vous ne pouvez pas prendre une poésie et en tirer un discours scientifique. Hein. Ça n'a pas de sens. Et dans l'écriture, c'est pareil. Et vous avez un genre dans l'écriture. Il y a deux livres comme ça, il y a Daniel et l'Apocalypse, qui appartiennent au genre qu'on appelle le genre apocalyptique. Alors, c'est bizarre, c'est le livre qui a donné le nom au genre, mais en fait le genre est beaucoup plus vaste. On a, vous savez, dans la bibliothèque de la Pléiade, deux tomes bourrés d'Apocalypse de l'époque. Hein? Donc c'est vraiment un style d'écriture, un genre littéraire, avec ses règles, avec ses manières d'interprétation. Vous ne pouvez pas prendre ça comme vous prenez l'épître de Paul, qui est doctrinaire, hein, et prend des éléments, et voilà, tac, 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 et il y a sept esprits, donc il y en a sept. Non, hein, non, c'est un genre qui joue sur le nombre, qui est très symbolique, qui est très imagé, hein, et donc sept, dans la Bible, souvent, peut-être pas toujours, mais souvent, dans ce texte symbolique, vous avez quelque chose de complétude, vous avez les sept jours de la création, hein. C'est un cycle complet. Hein. Et donc, les sept esprits de Dieu, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends, c'est l'esprit de Dieu dans sa globalité, sa plénitude de l'esprit. Qui est là. Hein. Donc, dire sur la base d'un texte comme ça, non, la Trinité, c'est de la foutaise, il y en a neuf, non, ça va pas. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas faire ça. Enfin, vous pouvez le faire, mais vous commettez des crimes de lecture biblique en fait. Pourquoi Jésus avait besoin de prier Dieu le Père lorsqu'il était sur terre, s'il était pleinement Dieu, éteint avec lui? Parce que Jésus était un homme. Hein. Il était homme, et en tant qu'homme, il avait besoin de prier Dieu. Et en tant que Dieu, je dirais, il était en communion avec Dieu depuis toute éternité. Hein. Ils sont ils sont dans une intimité qu'on peut difficilement concevoir. Donc, aucun souci. Si Jésus était Dieu en une seule personne, comment aurait-il pu ressusciter après sa mort? Là encore, hein, bon, on joue toujours cette difficulté de Jésus qui est à la fois au milieu. Hein. Donc vous transportez là dans la divinité un problème qui est en fait un problème christologique, c'est-à-dire la conjonction de ces deux natures. Christ dit souvent que sa mission consiste en ce que Dieu, le Père, soit glorifié. Pourquoi cette distinction? Pourquoi pas afin que lui-même soit glorifié et non pas lui avec le Père? Justement parce qu'il est le Fils. Hein? Si vous avez compris quelque chose de ce que je vous ai dit, vous l'avez saisi maintenant. Hein? Jésus est tourné vers le Père. C'est ça son être même, hein? Être tourné vers le Père. Si Christ est Dieu, pourquoi dit-on de lui qu'il s'est fait serviteur de Dieu? Oui. On est toujours sur cette même difficulté. Hein. Jésus est orienté vers le Père. Dans Romains 8, 26, il nous est dit que l'Esprit lui-même intercède pour nous. Au verset 34, il nous est dit que Christ est à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. Pourquoi faut-il que l'Esprit, aussi bien que Christ, intercède pour nous si c'était un en Dieu? Et pourquoi Christ est assis à la droite de Dieu s'il est un avec Dieu?
C'est bon,
hein? Moi je dirais c'est plutôt une raison de se féliciter que toute la Trinité participe à la prière, hein. Et donc que l'Esprit intercède pour nous, ça ne peut pas nuire, hein. Franchement c'est une grande aide. Et donc si le Christ intercède pour nous, croyez-moi, quand viendra le jugement, on sera mal et on sera très heureux de voir cet avocat, hein. Parce que sans lui.
Par rapport à l'esprit qui intercède, Christ qui intercède, pour moi, l'esprit intercède dans la prière, juste dans la prière.
Oui.
Et pour moi, quand Christ intercède, c'est face au péché, en disant, en tant qu'avocat.
Oui, je pense que c'est juste, hein. La surintercession de l'Esprit nous est surtout donnée dans Romains pour la prière. C'est très bien. Hein. Mais il nous est dit aussi que nous pouvons prier en fait par Christ. Hein. C'est parce que le fondement, en quelque sorte, pour que nous puissions nous adresser à Dieu sans être anéantis, il se trouve dans le sacrifice de Jésus. Dans Marc 10, 39 à 40, on lit que Christ lui-même dit qu'il ne lui appartient pas d'accorder le siège l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, lorsque nous serons au ciel avec lui. Pourquoi? S'il est Dieu, ne devrait-il pas pouvoir décider, choisir? Alors là, je ne sais pas. Effectivement, il dit que ce n'est pas à lui de donner ses places. Je suppose que ça veut dire que c'est au Père d'attribuer ses places. Non. Ah, c'est peut-être aussi un peu naïf de croire qu'on sera assis sur des chaises et puis l'un à la gauche tout au Christ et l'autre à la droite. Donc qu'est-ce que ça veut dire au fond? Est-ce que je ne sais pas de quoi sera fait la vie dans l'au-delà, mais il y a une chose que je sais, c'est que nous vivons sur la terre, dans une nouvelle terre, et que nous aurons des choses à faire. Et si je comprends bien les textes, il y aura des niveaux de responsabilité qui seront en accord avec notre vie présente, avec le fruit que apporte notre vie. Et donc, est-il naïf, je ne sais pas, d'imaginer que ces places-là, ce sont des places de très haute responsabilité. J'imagine, hein, c'est toujours extrêmement difficile d'imaginer l'au-delà. Mais en tout cas, on peut l'imaginer que ce soit des rôles sur cette nouvelle terre. Et puis, ma foi, c'est le Père qui les attribue. C'est pas profondément choquant. Galates 1,5, Christ a accompli la volonté de Dieu, pas sa volonté mais celle de Dieu. Est-il alors Dieu lui-même? Ben oui. Nous avons trois personnes, nous avons trois volontés. Hein. On ne peut pas imaginer qu'il y a une confusion de volonté. En même temps, nous savons que Dieu est un, donc. Le Fils ne veut certainement rien, parce que le Père ne veut pas. Hein. et l'esprit encore moins, enfin, si j'ose dire. Donc, et en Christ, nous avons en plus la volonté humaine et sa volonté divine, si j'ose dire, avec toutes ces difficultés que ça crée en théologie. Ma foi, moi, je ne pense pas qu'il faut opposer la volonté de Christ à celle de Dieu. Ils sont en parfaite harmonie. Donc, on est plus dans la spéculation qu'autre chose. Donc, on a fait le tour des questions, finalement. Moi, je voudrais encore vous donner quelques pistes de lecture, si vous voulez aller plus loin. C'est une science sans fin, hein. Si vous voulez une bonne initiation à la Trinité, je vous recommande ça. Phil Emery, La Trinité, introduction théologique à la doctrine catholique sur Dieu Trinité. Alors, le mot catholique peut faire peur à certains. C'est pas la peine d'avoir peur. Sur ce point-là, comme je vous l'ai dit, on est parfaitement en accord. Et c'est très bien fait. Moi, je trouve ça excellent. 15 €, coûte pas une fortune. C'est très bien. Il y a un autre ouvrage que je vous recommande vivement. Je ne sais pas si vous avez lu ça déjà. C'est vient de sortir, en fait. Hein. Pour une fois réfléchi, Théologie pour tous, sous la direction d'Alanisius, qui est un prof de théologie systématique à Vaux-sur-Cère. C'est très bien fait. Enfin, tout n'est pas excellent, mais dans l'ensemble, c'est très bien fait. Et c'est un style un peu, je dirais, moi j'ai offert à ma fille, parce que je trouve que c'est une approche de la théologie, mais qui n'est pas trop sèche, en fait. Hein. Il y a aussi des petits dessins, des petites caricatures, des choses comme ça. C'est vraiment bien fait, avec des questions. C'est pas un discours, il y a des petites choses qui sont sorties. Je trouve que c'est vraiment excellent. Ça coûte un peu plus cher, ça coûte 50 €, mais ça vaut la peine. Hein. Franchement, vous pouvez le regarder si vous voulez, c'est très bien fait. Il y a des choses que je n'ai pas abordées ici, qui sont très intéressantes. Avec la Trinité, nous sommes plongés dans l'être de Dieu, dans ce qu'il est au fond de lui-même. On pourrait se dire, mais est-ce que ce n'est pas un peu décalé? Mais je ne pense pas parce que vous savez que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et donc, il y a sans doute quelque chose de ce Dieu, de la nature de Dieu qui se retrouve en nous. Et donc, c'est très intéressant, je trouve, d'examiner l'anthropologie, la doctrine de l'homme, hein, à cette lumière-là. Et si vous voulez aller un peu plus loin sur cette piste, bon, ça c'est en anglais, mais c'est excellent. Like Father, like Son, hein, sur la trinité de notre humanité. C'est de la théologie, mais ça se lit vraiment très bien et c'est drôlement intéressant. Et puis, ça c'est par contre assez de la haute théologie, mais c'est très très bien. Mais il faut arriver au bout parce qu'au début, pendant deux chapitres, il discute avec Hatzinger et Sisiula, c'est-à-dire deux. Des théologiens catholiques, romains et orthodoxes. C'est de très haut vol, mais la deuxième partie du livre est beaucoup plus accessible, et là, vous allez aborder la question de l'Église comme image de la Trinité. Et ça, c'est très intéressant aussi, parce que vous imaginez bien que la doctrine de Dieu a aussi un impact sur notre doctrine de l'Église. Et vous savez, la doctrine de la Trinité, elle a, théologiquement parlant, elle est très intéressante parce que nous pouvons comprendre certaines choses sur Dieu. Par exemple, dans un monothéisme pur, c'est-à-dire à la juive ou à la musulmane, vous ne pouvez pas avoir un Dieu d'amour. Et ça se comprend parce que que voulez-vous que Dieu aime avant la création du monde? Il ne peut s'aimer que lui-même. Mais ce n'est pas de l'amour. Hein. Et pour que Dieu puisse devenir amour, puisse aimer quelqu'un, il faut qu'il crée. Bon, je dis ça un peu rapidement comme ça, mais je veux dire, là, vous touchez à quelque chose de très profond. Alors que dans le Dieu trinitaire, il peut y avoir amour dès avant la création du monde, parce que ces trois-là s'aiment. Hein? Et donc, vous avez un Dieu qui peut être amour en lui-même, et qui n'a pas besoin de la créature pour être amour. Et vous ne pouvez pas dire ça du Dieu des musulmans, ni du Dieu des juifs. Hein? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de... Je trouve que ça ouvre un peu les perspectives sur Dieu. Et là, pourquoi je parle de ça? Parce que dans son application à la doctrine de l'Église, Miroslav Volf, qui est un théologien évangélique, mais disons très haut vol, lui, il va par exemple dégager qu'on ne peut pas être chrétien tout seul. Pour être chrétien, vous avez besoin de l'Église. Vous ne pouvez pas être chrétien en dehors de l'Église. Hein? Je trouve ça très intéressant. Vous allez me dire, que feront ceux qui sont en Arabie Saoudite? Bien sûr, hein, Dieu fera en sorte, hein, mais ce n'est pas un christianisme sain et normal. Hein, comprendre.
Oui. On peut aussi ajouter le précis de doctrine chrétienne de Jules Marcel Nicole, qui a absolument à voir dans sa bibliothèque.
Oui, 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 c'est un bon livre. Oui. Oui. Ça, je dirais, c'est un peu l'aggiornamento du manuel de Nicole, mais tout à fait, hein, c'est clair. C'est la génération d'avant, hein, Marcel Nicole. Voilà, j'ai à peu près tout dit ce que j'avais à vous dire. Hein. Donc, si vous avez des questions, et ça ne vient pas maintenant, ou vous êtes trop timide pour les poser comme ça, vous pouvez me voir, hein, ou m'écrire, enfin bref, je suis à votre disposition. Si je peux vous aider, hein, je n'ai pas réponse à tout, mais parfois j'ai quelques réponses.
J'ai une question qui me turlupine depuis un moment, et sur laquelle j'ai beau chercher, j'arrive pas à trouver une réponse qui soit juste, je pense, à mon sens, parce qu'elle est trop d'un côté ou de l'autre. C'est que très souvent, lorsque on voit que le don de l'esprit a été donné, que souvent Jésus dit qu'il nous a choisis, très souvent on voit qu'il choisit, on voit que Dieu a prévu d'avance des choses aussi. Mmh. Alors il y a différentes doctrines qui s'entendent sur ça, et donc on touche vraiment aussi à la Trinité dans toute sa quintessence. Et j'ai du mal à voir à peu près clair là-dedans. Il y en a qui disent que il n'a pas prédestiné à l'enfer les uns, et qu'il est prédestiné au salut des autres. On voit quand même qu'il y a quand même un choix, une souveraineté de Dieu dans tout ça. On voit qu'il y a quand même, il est toujours présent, et il est malgré tout, c'est lui qui maîtrise tout. Donc dans tout ça, la Trinité par rapport à l'homme, comment elle se situe dans tout ça, quoi? Est-ce que toi, comment tu le vois?
Alors là, je pense que c'est un problème théologique majeur, hein, mmh, évident, et je dirais ça concerne tout chrétien, parce qu'il faut se positionner à un moment donné. Mais on est là, assez loin, je crois, de la doctrine de la Trinité. C'est-à-dire, la Trinité intervient évidemment dans ces choses-là, mais pour y voir plus clair, vous pouvez à la limite imaginer Dieu comme un et faire abstraction de la nature trinitaire de Dieu. C'est la doctrine du péché et de la rédemption, en fait, hein, pour être clair, c'est-à-dire comment on peut être sauvé et comment ça se fait que quelqu'un est sauvé et pas un autre. Il faut vous dire les choses comme elles sont. Il n'y a pas aujourd'hui accord sur cela entre les chrétiens. C'est-à-dire, il y a grosso modo deux grandes écoles. Il y a l'école dite arminienne, hein, qui privilégie en quelque sorte le libre arbitre. C'est-à-dire, on considère que l'homme est suffisamment libre pour choisir Dieu. Hein. Et donc, dans cette école-là, vous allez avoir des gens qui vous disent... il faut prendre une décision pour Jésus, il faut que moi j'ai cru, hein, et donc je suis sauvé parce que j'ai cru. Hein. Donc on va mettre l'insistance sur l'activité de l'homme, hein, et son libre arbitre, pour faire simple. Et puis de l'autre côté, vous avez l'école qu'on pourrait appeler calvinienne, hein, donc Calvin est un exponent connu, qui considère que avant tout, je dirais, Dieu est souverain, et il y a la prédestination, qui est une doctrine biblique, hein, vous ne pouvez pas y échapper, vous ne pouvez pas ne pas avoir la doctrine de la prédestination parce qu'elle est clairement dans les textes. Et donc on va insister sur la souveraineté de Dieu qui, lui, choisit des hommes, hein, dès avant la création du monde, qui les prédestine au salut. Et voilà. Moi, je pense que... Enfin, je pourrais faire simple, mais je pourrais vous donner ma position, mais je ne le ferai pas. Hein, parce que je pense qu'il faut que vous travailliez un peu et que vous fassiez votre conviction vous-même. Mais si vous voulez un livre qui pourra vous aider, vous amener assez loin, c'est... c'est celui-là. C'est Henri Blocher, qui est un théologien de la génération de Nicole, enfin entre Nicole et Nisis, on pourrait dire. Doctrine du péché et de la rédemption. Et là, vous avez traité la question dans le détail, avec un maintien des deux perspectives jusqu'au bout, et à un moment donné, il est aussi choisi. Mais il vous amène au moins au point de pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Moi, je ne pense pas qu'on peut régler ça en 5 minutes. Si tu vois ce que je veux dire.
Bien sûr.
Donc, et je ne veux pas vous polluer avec ma position. J'en ai une, et je crois qu'elle est juste, mais encore, je peux me tromper. Donc, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas, mais... je peux te donner au moins un bon guide.
Voilà. Moi j'ai une question en fait à propos de Jésus dans la Bible. En fait, est-ce qu'il y a une différence entre le Jésus avant l'épisode de la tentation et le Jésus après en fait? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut justifier finalement que le diable est un saint, et un saint à pouvoir sur lui en fait? C'est-à-dire de le transporter ici et là et...
Je pense que l'épisode de Gethsemane est intéressant parce qu'il se situe après le baptême de Jésus. C'est-à-dire, vous savez que Jean-Baptiste ne voulait pas baptiser Jésus, hein, parce que c'était un baptême de repentance. Et ça n'a pas de sens, d'une certaine manière, que Jésus vienne prendre ce baptême de repentance alors qu'il n'avait rien à se faire pardonner. Hein. Mais Jésus insiste, et Jean-Baptiste cède, parce que, en fait, en se faisant baptiser, Jésus entre dans son rôle. C'est-à-dire qu'il va assumer son humanité. Et il va s'inscrire dans cette ligne, parce qu'il faut qu'il porte la culpabilité de cette ligne. Donc, il entre à ce moment-là, et suite à ça, il est amené au désert et tenté. Alors, est-ce qu'il y a un avant et un après? Je pense que, effectivement, du point de vue de l'histoire du salut, c'est un moment très très important, le baptême, plus que la tentation, dans mon sens, parce que là, nous sommes vraiment au début de son de cette substitution qui l'emmène jusqu'à la croix. Pourquoi le diable a-t-il un pouvoir sur lui? Mais je pense que si vous lisez l'évangile de Matthieu, vous verrez que un thème très intéressant, c'est que Jésus est le véritable Israël. C'est-à-dire que Jésus va récapituler l'histoire d'Israël. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il aille dans le désert et qu'il soit tenté par le diable. Parce que le peuple a échoué dans le désert. Hein. Et lui, il faut qu'il aille dans le désert et qu'il réussisse. Hein. Parce que lui, il est Israël, mais sans la faillite d'Israël. Il va récapituler toute l'histoire. Et l'évangile de Matthieu est construit en sorte que de faire sortir cette analogie-là. Et donc, je pense que cette histoire a tout son sens. Maintenant, pourquoi le diable a-t-il ce pouvoir sur lui? Parce que Jésus entre dans son rôle de souverain sacrificateur, hein, et il faut qu'il soit tenté pour qu'il sache, c'est dans l'hébreu que vous direz ça, il faut qu'il sache ce que c'est la tentation, il faut qu'il soit amené au point de rupture lui-même. Hein. Mais... probablement, faut-il affirmer en même temps que Jésus n'aurait pas pu tomber. Hein. Mais toujours est-il qu'il fallut qu'il soit amené à ce point.
Oui, en fait, je suis quasiment d'accord avec tout ce que vous avez dit, juste un seul point. En fait, je vous suis tout à fait quand vous dites que Dieu des musulmans n'est pas le Dieu des chrétiens, mais sur le fait que le Dieu des chrétiens n'est pas le Dieu des juifs. Cette formulation dérange
oui,
un petit peu.
Oui, je comprends bien. C'est un peu provocateur ce que je dis.
Oui, parce que c'est ça.
Surtout qu'on découvre quand même, si on reprend les psaumes, quand on lit quand l'Ancien Testament, que ce lieu-là était déjà
oui. Lui-même. Non, mais je vous rassure tout de suite. Quand je dis ça, je fais exprès, je provoque un petit peu. On pourrait dire le Dieu du rabbinisme, du judaïsme rabbinique.
Là, je serais plus d'accord.
Ouais. Le judaïsme au sens moderne. Parce que vous savez, le judaïsme s'est scindé en deux, après Jésus. Vous avez d'un côté le christianisme, qui a pris son essor, mais qui est un judaïsme à la base. Et vous avez le judaïsme qui ne voulait pas de Jésus, ça c'est la conférence de Yavne, après la destruction de Jérusalem, et ça a donné ce qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme rabbinique. Et donc, ce judaïsme-là, il a cultivé une image de Dieu monolithique, non trinitaire. Et donc, c'est pour ça que je dis c'est le Dieu des Juifs. Mais ce n'est pas le Dieu des Juifs au sens, je dirais, Israël, les origines du Premier Testament. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je ne fais pas de distinction et j'insiste entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Nouveau. C'est le même. Mais le Dieu des rabbins n'est pas le nôtre. C'est tout ce que je veux dire.
Des rabbins, non, des tiennes. Parce que là, vous avez dit qu'il y a du courant, certes. Qu'il y a les chrétiens dont on est issu, mais aussi le judaïsme messianique.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas lieu de faire la distinction. C'est malsain, cette distinction. Il y a, je crois, cette image de Romain, il faut la maintenir, elle est super précieuse, de ce tronc commun. C'est-à-dire, vous avez Israël, ça c'est le peuple élu, c'est Israël. Et Dieu, à un moment donné, il a coupé le pain. Et il a greffé dessus. Et nous sommes sur ce tronc-là. Et si nous sommes sauvés, c'est que nous sommes greffés sur ce tronc-là qui vient d'Abraham, qui vient de plus ancien encore. Nous sommes sur ce pilier commun. Et tout juif qui est sauvé, et tout chrétien qui est sauvé, ils sont sauvés parce qu'ils sont là-bas. Nous sommes Israël, nous n'avons pas remplacé Israël, nous sommes greffés dessus.
Non, mais on dit ça parce que souvent, on a aussi...
Je vais peut-être arrêter le débat parce qu'on sort un peu du thème aussi.
Oui,
c'est vrai. On tarde peut-être pas trop. Il y a peut-être une dernière question. Enfin, Olivier, tu voulais rajouter quelque chose, mais...
Non, moi j'ai tout dit.
Une dernière question sur notre thème de la Trinité.
Quand on dit qu'on doit lui ressembler, alors...
Pardon ?
Quand on dit qu'on doit lui ressembler...
On doit ressembler à Dieu.
À Jésus.
À Jésus, oui.
Lui, le modèle, j'ai appris.
Jésus est pleinement homme, mais pas pleinement Dieu.
Oui, ça, je sais, mais du coup, ça explique plus.
Oui, c'est sûr.
Ça marche et tout ça. Hein.
Oui, c'est l'homme sans faille. Hein. Donc, c'est un.
Par rapport à nous.
Non, enfin, il n'est pas que homme. Non. L'homme Jésus est un homme sans faille et il est évidemment le grand modèle. Et c'est incontestable. Aussi dans son orientation vers le Père. Oui, je n'ai rien à ajouter, c'est vrai. C'est toute la piété chrétienne qui est résumée en un mot, en fait. Imitation de Jésus-Christ. Oui. Ah, oui. C'est profond.
Je peux arriver à quelque chose de
Jésus.
Et par rapport à ce qu'on a vu aussi dans la vie de Jésus, dans sa manière d'être toujours orienté vers le Père, et dans sa vie terrestre, en fait, on peut voir le modèle qu'on nous demande de suivre dans la vie de
Christ. Oui,
dans beaucoup d'aspects de sa vie, on voit effectivement que cette. Nature humaine qu'il a eue sur cette terre, il a été confronté en fait à beaucoup de choses auxquelles nous touchons personnellement, quand nous sommes confrontés. Et en ce sens-là, on peut voir aussi ce modèle qu'il nous demande.
Oui, c'est très, je dirais, très fort de savoir, comme on a dit tout à l'heure, qu'il a été tenté comme nous. Donc, il sait de.
Oui.
Quand vous êtes tenté, il faut vous jeter dans ses bras parce qu'il sait de quoi il s'agit. Il n'est pas sur un nuage On ne peut pas savoir ce que c'est la condition même. Hein.
Je propose de clôturer avec un chant.